ils n'ont rien pris, on leur a tout donné. On leur a donné le pouvoir. Tout ne menait pas à ce que quelqu'un qui a 44 ans à l'époque, qui vient d'être fraîchement naturalisé, qui s'appelle Adolf Hitler, s'assoit dans le fauteuil de chancelier. Ça a été une série, encore une fois, de calculs, de manigances, de manœuvres sordides, mesquins, qui ont abouti à cette décision-là. En relisant l'histoire du XXe siècle, on se rend compte que les extrêmes droites ont toujours été mises au pouvoir par des libéraux. Et c'est vrai que quand on voit la bande de crétins qui entoure Hindenburg en 1932, on ne peut pas ne pas penser au fait que la dissolution est une idée de génie qui a été ruminée entre Madame Brigitte, Bruno Roger Petit et je ne sais pas quel autre ectoplasme. Oui. Donc forcément. Mais les, aux mêmes causes, les mêmes effets.
Ici Radio Londres, les résistants parlent aux résistants. C'est vrai qu'on pourrait commencer comme ça, quoi.
Ça va faire un peu tout bas, je pense.
Johan Chapoutot, je suis ravi de t'interviewer pour la première fois, après avoir lu tes livres. Et là, je dois dire que j'ai fait une cure de Chapoutot avec un peu tes copains Ingrao et Patin. Donc j'ai lu le Monde nazi, qui est quand même un gros pavé, qui est en gros un bouquin sur comment tout ça est monté, toute l'ambiance, qu'est-ce que c'est que la pensée nazie, etc. Et puis j'ai lu, mais beaucoup plus rapidement, parce que je l'ai eu cette nuit, le livre qui sort cette semaine, qui s'appelle « Les Irresponsables », et le sous-titre, c'est « Qui a porté Hitler au pouvoir ?» quoi. Donc c'est un livre qui est beaucoup plus dans l'intimité de cette montée du nazisme à partir de 1933, on va dire, et puis c'est une galerie de personnages, et ce qui est saisissant dans ce livre-là, c'est le rapport au réel et à aujourd'hui. Mmh. Et je me souviens, c'est un souvenir personnel, c'est que comme j'avais parlé de Hugenberg dans un de mes éditos, tu m'avais envoyé ton chapitre et on s'était parlé. Mmh. Et je vais démarrer par ça. D'ailleurs, c'est une question un peu personnelle, mmh, parce que toi, t'étais dans ton Jura en train d'écrire ça. Mmh. Et t'étais, je sais pas si c'est exact, mais t'étais dans une sorte d'état de sidération, parce que d'une part, tu étais en train de rentrer dans le détail de cette montée du nazisme, Weimar, enfin tous ces personnages, etc. Et puis en même temps, il y avait l'actualité qui nous rattrapait, quoi. Et je trouve qu'être historien aujourd'hui, un historien qui s'occupe du nazisme comme toi, ça doit être mentalement un exercice beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît.
C'est vrai que parfois, je regrette de pas être devenu spécialiste de religion grecque ou d'institution romaine comme je l'envisageais à un certain moment. Mais il reste que travailler sur tous ces gens qui ont mis les nazis au pouvoir entre 1930 et 1932, puisque ça a été une succession de calculs, de choix politiques, de manœuvres et de manigances. Il n'y a pas eu du tout de marée brune qui montait inexorablement. Travailler là-dessus, ça a eu une vertu thérapeutique cet été 2024, parce que on a assisté en France à quelque chose d'assez inédit, hein, un coup d'État, puisque le résultat des élections n'a pas été pris en compte par un chef de l'État totalement irresponsable à tous égards. Dans le cas d'une constitution, celle de la Ve République, qui est directement dérivée de la constitution de la République de Weimar, telle qu'elle a été tordue à partir de 1930 dans un sens présidentialiste, avec un gouvernement d'exception en permanence qui ne tient pas compte du résultat des élections. Et en réalité, je lisais des choses dans les archives, dans les sources qui se passaient à l'été 1932, quasiment le jour même où je les vivais indirectement par la politique française. Et ça m'a permis, au fond, de me substantialiser intellectuellement et de pas me dissoudre dans une forme de colère ou d'énervement vis-à-vis de ce qu'il se passait en France, qui était une négation du principe démocratique. On voit bien que le capitalisme néolibéral, totalement aux abois, a décidé de rompre avec la démocratie, c'est très clair. On a eu des coups d'État physiques le 6 janvier 2021 à Washington. On a eu la même chose à Brasilia quand Bolsonaro a été battu. Et maintenant, on se permet de ne pas tenir compte du résultat des élections. C'est des choses qui se sont déjà produites dans l'histoire, avec des acteurs qui sont tout à fait comparables à ceux qui gouvernent aujourd'hui, économiquement et politiquement. Et à cet égard, c'est vrai que l'histoire a une dimension vraiment heuristique et éclairante. Elle nous permet d'identifier ce qui est à l'œuvre. jusque y compris dans les médias, puisque tu parlais de Hugenberg.
Oui, c'est ça, oui. Et il y a une troisième raison, d'ailleurs, il y a les deux livres, et puis il y a le fait que tu vas, pour mon plus grand bonheur, enfin, on l'a pas encore fait, mais faire une série de chroniques pour Blast sur cette montée du nazisme et le rapport à la France qui sera directement inspiré de ces irresponsables. Mais avant de parler de ce livre qui sort et que je vais finir avec avidité très vite, là, je voudrais qu'on revienne au monde nazi. Et est-ce que tu peux, parce que j'allais dire la religion nazie, mais c'est pas comment appeler ça, parce que c'est pas une idéologie, c'est pas le nazisme en tout cas existe, mais c'est pas une génération spontanée qui est née dans ces années-là. Il a toute une histoire qui remonte à quoi? On remonte à la Révolution française, on remonte au comment ça naît?
Alors, c'est une temporalité très longue, en fait. Déjà parce que le nazisme se veut une lecture de l'histoire, une relecture de l'histoire, une réécriture, en réalité, sur plusieurs millénaires. Hein. Il réinterprète totalement, dans un sens complotiste, biologico-raciste et antisémite, toute l'histoire de l'Occident et l'histoire de ce qu'ils appellent la race germanique. Et de ce point de vue-là, il recode et il réinterprète toute l'histoire allemande telle qu'elle s'est déroulée, dans ce qu'elle a pu avoir de plus traumatisant. Et ce qui est intéressant, ce sont précisément ces traumatismes de l'histoire allemande qui sont de fait indéniables. La guerre de 30 ans, qui a vu la totalité de l'Europe venir se battre dans le Saint-Empire romain germanique, dévaster les terres allemandes, semer la mort, et qui a laissé un complexe d'obsidionalité en Allemagne, c'est-à-dire une peur de l'assiègement, de l'encerclement, du défaut de protection par des frontières inexistantes. Et ces traumatismes se sont répétés tout au long de l'histoire allemande, au cours du 19e siècle, et puis évidemment la fin de la Grande Guerre, qui a été épouvantable pour l'Allemagne, parce qu'on a 2 500 000 morts et une disparition totale de la puissance allemande entre 1917 et 1919. Puis l'hyperinflation, hein, qui vidange complètement la société allemande, qui détruit la monnaie et détruit l'économie. Et enfin, après quelques années d'accalmie pendant la République de Weimar, la grande crise qui frappe l'Allemagne parmi les premiers pays au monde, puisque les deux premiers pays touchés, c'est les États-Unis, évidemment, qui sont l'épicentre de la crise financière, et l'Allemagne qui est sous perfusion de capitaux américains. Et donc, il faut avoir vraiment cette dimension longue en tête, non pas pour créer l'idée d'une nécessité ou d'imaginer une téléologie qui mènerait nécessairement à l'avènement du nazisme, mais pour voir que dans le contexte de la fin des années 20, il y a tout un ensemble de gens qui étaient par ailleurs très bien formés, très intelligents, beaucoup d'universitaires, beaucoup de hauts fonctionnaires, etc., de juristes, qui ont su donner à la population allemande une lecture satisfaisante, apaisante au fond, réassurante de l'histoire allemande, en leur disant, voilà, il s'est passé tout ça, c'est grave, mais on sait pourquoi ça s'est passé comme ça, et en plus, de surcroît, on vous offre une solution de sortie.
Mais d'ailleurs, je pense que tu reviens sur les discours de Goebbels ou d'autres dignitaires nazis. Et en fait, on se rend compte, et moi, c'est en te lisant que j'ai découvert ça, en lisant Le Monde nazi, que ces gens-là, et Goebbels en tête, qui était le propagandiste du nazisme, s'inspire de l'abbé Baruel, de Gobineau, d'auteurs. Mais Baruel, c'est quoi? C'est la Révolution.
Fin 18e, oui.
Ouais. Mmh. Et c'était un anti-franc-maçon, le satanisme. Enfin, et on retrouve tout ça dans l'essence du nazisme et dans les discours.
Oui, parce que, alors, je parle de l'abbé Baruel parce que le nazisme est un complotisme. Hein, c'est une vision du monde totalement complotiste, c'est une herméneutique satanique de l'histoire. C'est très intéressant le complotisme parce que dans une période ou dans un âge de sortie de la religion, qui est indéniable avec une christianisation très avancée, c'est une manière, le complotisme, de continuer à faire du religieux, panexplicatif, transcendant, et eschatologique même, avec une porte de sortie, sans Dieu, parce que Dieu a été congédié par la culture contemporaine, mais en gardant le diable, c'est-à-dire en gardant un principe maléfique qui garde les attributs du Dieu du providentialisme, au fond, puisqu'il est surpuissant, il explique tout, il a une volonté, etc. Et évidemment, ceux qui jouent ce rôle-là dans l'imaginaire nazi, qui est induit de toute une tradition d'extrême droite contre-révolutionnaire du du 19e siècle, c'est effectivement les Juifs. Et donc, effectivement, il faut remonter à tous ces linéaments-là, à toutes ces sources-là, pour voir comment se constitue ce qu'on a précisément appelé le monde nazi, c'est-à-dire un monde intérieur, un monde d'interprétation structuré par des concepts, par des prémices, par des raisonnements, par des peurs, et qui constitue un univers d'expérience que l'on a voulu rendre dans ce livre.
Et ce qui est, c'est que contrairement à d'autres, il y a eu l'Italie avec Mussolini, etc., mais l'Allemagne, est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il y a eu la défaite cuisante et terrible de la Première Guerre mondiale qui crée un état d'angoisse dans le peuple allemand, mais qui n'existe chez aucun autre peuple, et que le nazisme, en tout cas ce qu'amène Hitler et avant lui ces personnages, c'était de répondre à cette angoisse par un avenir ou par j'allais dire presque joyeux, quoi.
Oui, alors de fait, il faut penser à ce qu'écrit Brasillach, ce qui va au congrès de Nuremberg, il y a une joie fasciste, plus précisément une jouissance fasciste, mauvaise, mais en tout cas réelle. On fait souvent remonter à Versailles, au traité de Versailles, à l'humiliation, une des sources ou une des raisons d'un ressentiment qui conduit au nazisme. Mais il faut remonter un petit peu plus en amont à toute une série de traumatismes réels, avérés, notamment celui de l'hypermodernisation allemande à partir de 1871. On a un pays qui est essentiellement rural et agricole, et qui en 10 ans devient un pays urbain. En 10 ans. C'est-à-dire qu'en 1881, l'Allemagne est industrielle et urbaine majoritairement, 50 ans avant la France. Alors que la France avait une avance de ce point de vue-là. Par ailleurs, il y a une explosion démographique de 1871 à 1914. La population allemande croît de 67%.
Ah oui,
c'est absolument gigantesque. Ce qui suscite évidemment des angoisses sur l'exiguïté du territoire.
Parce qu'ils font beaucoup d'enfants.
Sur l'interland à sécuriser, sur la manière de nourrir les enfants allemands. Et donc, il y a toute une thématique de ce que les nazis ensuite appelleront le biotope, der Lebensraum, ce qu'on appelle l'espace vital, qui se cristallise dès avant 1914. Et évidemment, la Grande Guerre, avec ce traumatisme de la mort de masse, 1 800 000 morts au front et 700 000 morts civiles, du fait du blocus, de la famine et des maladies, et cette idée que, effectivement, le monde entier en veut à l'Allemagne, et que les buts de guerre des Alliés n'étaient pas forcément de vaincre militairement l'Allemagne, mais aussi de détruire politiquement le Reich, et au-delà, peut-être, d'assécher biologiquement la race germanique, puisque ces concepts de la raciologie étaient déjà très en vogue avant 1914. Les nazis ont repris tout ça dans un contexte qui devient panique au moment de l'hyperinflation, et de cette subversion de toutes les valeurs, quand on se souvient de Fritz Lang et du film de 1922, M'abuse le joueur, on voit une gigantesque Saturnale, en fait. Une société qui est cul par-dessus tête, totalement renversée, où les escrocs deviennent les dominants, où les vertueux qui ont économisé ont tout perdu. C'est quelque chose qui a travaillé en profondeur la société allemande, et c'est une chose à laquelle les nazis ont su répondre, là encore.
Alors, je vais te parler d'Hitler tout de suite, parce que moi, j'avais l'impression, l'intuition que Hitler était un dictateur très présent, et qu'il imposait une discipline très violente. Et en fait, à te lire, j'ai plutôt l'impression que c'est un piètre dictateur, quoi. Il est pas, il a su s'entourer par des gens, mais il est pas, c'est surtout autour de lui que les types imposent le rythme. Lui, c'est plutôt un type assez absent, quoi. Quel est son rôle dans cette montée du nazisme? Après, il est tribun, on sait ses discours, mais tu vois, dans son...
Absolument. Avec un des co-auteurs, donc Christian Ingrao, on avait fait il y a quelques années une petite biographie d'Hitler, justement, pour décentrer la question du personnage. Parce qu'au fond, l'image que nous avons aujourd'hui des nazis et d'Hitler, ce sont les images que les nazis ont eux-mêmes produites et nous ont eux-mêmes léguées. En l'occurrence, les colonnes parfaitement organisées, défilées au pas, et puis la surpuissance un peu messianique, transcendante, d'un génie dictatorial qui ne dort jamais et qui a toujours de bonnes idées. Bon, tout ça, évidemment, est faux. Le nazisme est une désorganisation permanente avec une très forte entropie. Et Hitler, quant à lui... il sait faire une chose dans la vie, c'est parler et séduire. Voilà, parler en petit comité, et puis parler devant des foules. Mais il ne sait pas travailler, il ne sait pas suivre un dossier, il ne sait pas s'inscrire dans la durée d'un travail sérieux. Ce que nous avons montré par divers travaux, moi je l'avais longuement développé dans Libre d'obéir, c'est que il y a une organisation complètement darwinienne à la base, avec une multiplication des agences, multiplication des lieux d'action, qui doivent s'affronter les uns contre les autres pour que surgisse de cet affrontement, de cette émulation, à chaque fois la solution la plus radicale, la plus violente, la plus brutale. Et c'est celle-ci qui est, in fine, décidée par arbitrage au sommet par la chancellerie. Donc au fond, la chancellerie du Reich, et d'ailleurs c'est souvent pas Hitler qui prend les décisions, hein, ce sont des hauts fonctionnaires très appliqués, très professionnels, la chancellerie du Reich intervient en dernier ressort, après que tout le monde se soit entretué à la base, pour choisir telle ou telle direction, mais également pour impulser des directions en amont. Donc il n'y a pas vraiment de présence permanente de quelqu'un qui, au fond, ne sait que parler.
Alors, qu'il y ait une sympathie pour Hitler à l'intérieur de l'Allemagne pour les raisons qu'on a évoquées, on peut le comprendre. Ce qu'on comprend moins, mais enfin qu'on comprend quand on lit le monde nazi, c'est cette sympathie des pays européens. Comment la pensée d'Hitler, son personnage et son idéologie, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, a pu infuser dans ces pays qui sont la France, l'Angleterre. On a des images de la de salut nazi, de la famille royale anglaise. On a, enfin, tout le livre est très très bien illustré. D'ailleurs, il y a une iconographie très.
Alors, il y a plusieurs strates. Hein. Il y a la sympathie des élites européennes et mondiales pour le phénomène nazi, qui est un phénomène avéré dès 1933, puisque le projet nazi, c'est un projet de recréation d'une zone optimale d'investissement en Allemagne par une politique de réarmement, des commandes de l'État qui sont payées par des artifices financiers élaboré par le docteur Hjalmar Schacht, hein, ce génie de la monnaie et des finances. Et tout ça, ça parle à l'étranger, parce que c'est l'étranger qui investit en Allemagne. Ça, c'est une première chose qui explique d'ailleurs un peu l'apathie hein, des démocraties face aux nazisme, notamment au moment de Munich. Et ensuite, il y a la participation d'une partie des populations européennes aux dimensions actives de la politique nazie, notamment des crimes nazis. Et ça, ce sont des chapitres extraordinaires de Christian Ingrao et de Nicolas Patin qui ressaisissent un peu ces aspects-là de participation du continent européen, notamment à la Shoah. On le sait très bien, les Allemands fustillent 800 000, hein, on compte à peu près 800 000 Allemands qui sont directement impliqués dans le meurtre de masse, dans le génocide. Les Allemands, à eux seuls, ne peuvent rien faire. Il a fallu une participation des sociétés européennes, alors ça va du secrétaire général de préfecture de la Gironde, Maurice Papon, aux gendarmes français, jusqu'aux nationalistes ukrainiens, en passant par l'antisémite balte ou polonais. Les Allemands qui sont parachutés à un endroit, qui arrivent à un endroit, ne connaissent pas les sociétés, ne connaissent pas les gens. Il faut des collaborateurs locaux pour savoir qui est juif, qui se cache où aller, où débusquer, où trouver, etc. Et c'est comme ça que fonctionne le génocide, et c'est comme ça que, notamment en Pologne, hein, les nazis ont pu tabler sur une culture antisémite très ancienne, qui était devenue fervente et extrême à la fin des années 30.
Je vais te lire, parce que j'ai relevé, hein, je vais pas pouvoir tout lire, mais une citation, page 39, qui moi m'a éclairé. Alors ça commence comme ça. Les traumatismes de la guerre, de la défaite, puis du traité de Versailles donnent une nouvelle jeunesse à l'antisémitisme dans le pays. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle perdu la guerre? À cause de la révolution allemande, dit la théorie complotiste de la sortie de la guerre. Et qui sont les révolutionnaires? Qui sont les internationalistes? Sinon ces incurables cosmopolites qui ne sont ni d'ici ni d'ailleurs, mais d'Orient, qui n'ont aucune patrie, les juifs. La forte présence de ces derniers dans les rangs des militants et des dirigeants socialistes et communistes, guerre étonnante dans la mesure où c'est bien la gauche qui prenait l'égalité des droits, n'était pas faite pour apaiser les soupçons conspirationnistes pleinement complotistes qui attribuaient le malheur allemand à une conjuration des judéo-bolcheviques contre le Reich, cela même que les nazis ne cessaient de dénoncer sous le nom de criminels de novembre 1918. Et tu termines en disant, elle est un peu longue la citation, mais je la trouve assez forte. L'équation posée entre juifs, communistes et défaites était étonnamment puissante et virulente par son pouvoir herméneutique. tout s'expliquer enfin, et par sa force mobilisatrice, notamment dans cette extrême droite qui se disait volkisch, ce qui réclamait d'un Volk, donc du peuple, racialement pur et étranger à toute contamination par le mélange des sangs, le sang le plus dangereux étant celui des Juifs. Mmh. Ça résume à peu près...
Oui, alors, c'est intéressant de se souvenir de tout ça, parce que au moment où il y a un vrai problème de réfugiés juifs en Europe, en raison de la politique nazie en Allemagne et en Autriche, 1938, il y a un problème de réfugiés sur le continent européen. Il y a une conférence internationale organisée conjointement par les États-Unis d'Amérique et le gouvernement français, qui se tient à Évian en juillet 38, et pour savoir ce qu'on va faire de ces réfugiés. Et la conclusion de la conférence, c'est que personne ne veut accueillir les victimes juives des nazis. Personne. En 1938, enfin, sauf un pays, qui est la République dominicaine, d'un dictateur qui s'appelle Rafael Trujillo, qui est un dictateur d'extrême droite, mais qui veut accueillir des juifs ashkénazes pour blanchir sa population. C'est-à-dire qu'il accueille des victimes d'un racisme antisémite pour des raisons racistes. Et pour ce qui est de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, c'est non. Alors, avec toutes les bonnes justifications que nous connaissons, les seuils de tolérance, la subversion migratoire, etc., et le fait aussi que on assimile juifs et communisme. Autrement dit, c'est un petit peu comme en 2015 en Europe, on a considéré que tous les Syriens qui arrivaient étaient forcément des suppôts de Daesh. Mmh. Voilà. Et l'obsession du judéo-communisme ou du judéo-bolchevisme fait que par définition, les juifs ne sont pas bienvenus, ils ne sont pas bienvenus biologiquement puisque l'antisémitisme depuis le 19e siècle a été recodé par l'anthropologie raciale, par le racisme, par la science. Et ils ne sont pas bienvenus non plus politiquement ou culturellement, puisqu'ils sont censés être, de manière consanguine, nécessairement communistes, marxistes, bolcheviques.
Et alors, toujours à te lire, c'est un truc qui m'a fait réfléchir. Tu t'expliques à un moment donné, tu dis, on pourrait considérer que le livre, page 67, pourrait s'arrêter là. Mais tu dis, le déluge de la violence et la mort de la Grande Guerre suffirait à expliquer l'émergence du nazisme. Mais bon, c'est bien pour cela que la comparaison à l'échelle européenne est essentielle. En effet, les soldats de tous les pays européens ont connu des expériences similaires à celles des combattants allemands. Partout, la radicalisation est sensible, qu'elle débouche d'ailleurs sur une séquence révolutionnaire comme en Russie ou sur une dictature militaire comme en Hongrie. Mais le fascisme ne s'installe qu'en Italie et en Allemagne. Mmh. Et c'est quoi l'explication? Pourquoi il y a ce tropisme dans ces deux pays?
Alors, il y a une thèse intéressante qui est celle de l'acculturation à la violence de masse, puisque la Première Guerre mondiale, ce sont 80 millions d'hommes qui sont mobilisés dans le monde et à qui on donne un permis de tuer et au-delà de ça, l'obligation de tuer. C'est-à-dire que c'est une inversion du processus de civilisation qu'on connaît et que d'ailleurs Norbert Elias, lui-même vétéran de la Grande Guerre, théorise dans les années 30. La démobilisation culturelle, psychique, elle est difficile. La matérielle est très complexe, hein. Remettre les armes au râtelier, reconfigurer les machines pour qu'on passe d'une économie de guerre à une économie de paix. Mais la démobilisation psychique, elle est d'autant plus difficile dans des pays qui ne sont pas satisfaits par l'issue de la guerre. En France, c'est le cas. Premier empire colonial au monde, enfin deuxième. Les coffres de la Banque de France sont pleins à bord. La France a gagné, etc. En Italie, c'est la victoire mutilée, hein, cette espèce de victoire volée. Les Italiens n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient de la fin de la guerre, bien qu'ils l'aient gagné. Et en Allemagne, c'est un refus de défaite. Un refus de défaite parce que, de fait, le 11 novembre 1918, les soldats allemands sont parfois à 200 kilomètres en terre française. Mmh. Il n'y a pas eu le bout d'une botte alliée sur le sol allemand, sauf dans les camps de prisonniers. Donc, il est très difficile il est très difficile de comprendre cette défaite-là. L'acculturation à la violence, cette espèce de d'ensauvagement, le terme allemand c'est Verwilderung, hein, cette brutalisation, comme dit Georges Mosset, elle est visible au fait que, et ça c'est Christian Ingrao qui le rappelle dans son chapitre sur la guerre, après 1918, vous avez en Allemagne une circulation de 5 à 10 millions d'armes individuelles. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Je ne parle pas d'armes de chasse, hein. Je parle d'armes de guerre. Autrement dit, lorsqu'il y a des affrontements ou des rixes dans la rue entre étudiants...
Les gens sont armés.
Qui eux-mêmes reviennent du front, là où ça se soldait par quelques coups de poing avant 1914, ça se solde désormais par des coups de couteau et des coups de feu. Voire plus si on a une grenade dans la poche qu'on a ramenée du front. Donc il y a cette torsion de la guerre qui brutalise littéralement, qui violentise au fond les hommes allemands. Et ça se retrouve dans le nazisme, puisque les nazis vont exalter, ils vont pas la cacher, cette expérience de guerre, ils vont l'exalter en constituant des milices paramilitaires, hein, des milices politiques, l'ASA et l'ASS, qui valorisent cette virilité de guerre.
Alors il y a une photo que je connaissais, mais et elle est vraiment très éclairante, surtout après quand on lit Les Irresponsables. C'est une photo qui est page 138, c'est Hindenburg. Donc Hindenburg, qui était le général militaire qui avait conduit la première guerre. D'ailleurs, il y a une statue de lui qui a été édifiée en 1916. Ils l'ont pas fait à la fin de la guerre parce que elle est de 12 mètres, et c'était quelqu'un de très populaire, donc qui va devenir président. On dit président,
oui,
en Allemagne.
Alors je précise juste que c'est de la com, hein, parce que Hindenburg a été choisi pour son apparence physique. Hein, c'est vraiment un monolithe. Il ressemble aux Prussiens des images d'Épinal. Il ressemble à Bismarck. Et donc, on le met en vitrine, alors que après la bataille de Tannenberg, qui est gagnée par l'armée allemande, mais le véritable stratège, c'est le numéro 2 de l'armée allemande, oui, qui est Erich Ludendorff. Mais Hindenburg, c'est vraiment de la publicité. Hein. Et c'est lui qui, effectivement, est élu président du Reich, puisque c'est le nom de la République de Weimar en 1925.
Parce que ce qu'il y a d'intérêt, enfin là on a situé dans ce début de conversation le contexte géopolitique, on va dire, et de ce monde nazi, mais sans ces hommes faibles, cet extrême centre, cette droite libérale, ce patronat, etc., rien n'aurait été possible. Et cette photo qui date de 1932, elle illustre complètement la faiblesse du régime et le fait que Hitler va arriver, quoi. Et la légende de cette photo, donc c'est Hindenburg qui est dans son domaine de Neudeck, et donc c'est le président de la République de Weimar depuis 1925, qui dirige de plus en plus à partir de 1930, à l'aide d'un cercle restreint de conseillers. Ensemble, ils impriment un tournant autoritaire à la République, voire rêve de sa liquidation. Ce sont eux qui, après avoir cherché et empêché Hitler d'arriver au pouvoir, vont l'y placer. Et ces hommes, on les voit de gauche à droite et on les retrouve tous dans ton bouquin qui sort là. C'est Franz von Papen, Wilhelm von Keil, alors lui je ne savais pas qu'il existait, Paul von Hindenburg, donc le président, Kurt von Schleicher, donc qui est un personnage très important. Et de dos, on le reconnaît pas, c'est un type qui s'appelle Otto Meissner. Est-ce que tu peux resituer qui sont ces hommes et ce moment, on publiera la photo d'ailleurs dans notre entretien.
L'arrivée des nazis au pouvoir, qui a été exaltée par les nazis eux-mêmes sous l'angle d'une prise de pouvoir, ils parlent de Machtergreifung pour rendre la chose épique, comme s'il y avait eu un combat et qu'on avait enlevé de haute volée le pouvoir. Tout ça est faux, puisque les nazis n'ont rien pris, on leur a tout donné, on leur a donné le pouvoir. Hein. On rappelle dans ce livre, comme je rappelle dans Les Irresponsables, que les nazis sont en déclin politique à partir de l'automne 1932. Ils s'effondrent partout. Au niveau du Reich, élection législative, au niveau des Länder, au niveau des cantons, au niveau des communes, et c'est très préoccupant, à telle enseigne que Hitler parle de se suicider à la fin de l'année 1932, hein, parce que l'échec est patent. Donc il y a eu vraiment une décision politique, au fond, qui consistait à acheter les nazis à la baisse, au moment où ils s'effondraient, s'adjoindre leurs forces de frappe militantes, leur bonne organisation, pour venir revitaliser, réarmer une droite libérale autoritaire qui ne pèse quasiment plus rien, hein, environ 10% dans les urnes. Donc ça a été une décision politique très froide, prise par des gens, et c'est très intéressant, parce que quand on regarde cette photo, ou quand on voit qui ont été les acteurs de la mise au pouvoir des nazis, hein, qu'on a vraiment installé dans un fauteuil, hein, le 30 janvier 1933, eh bien, 18 mois plus tard, à l'été 1934, quand on reprend ces acteurs-là, on se rend compte qu'ils ont soit une balle dans la tête, avec parfois des corps qui n'ont jamais été retrouvés. Il y a deux conseillers de von Papen qui ont été assassinés froidement par la SS au moment de la lune en couteau. Donc, soit une balle dans la tête, c'est le cas aussi de Kurt von Schleicher, hein, qui a été abattu dans son salon avec son épouse par un commando de la SS, soit ils ont une muselière et ils ne peuvent plus rien faire. Donc, c'est très intéressant de voir que ceux qui estimaient avoir fait un excellent pari et une excellente affaire, purement arithmétique, en ajoutant leur pauvre voix et la force demeurante du parti nazi, qui avait une conception un peu boursière, boursicoteuse de la politique spéculatrice qui consistait à acheter à la baisse les nazis, ces gens qui se situaient sur ce niveau de raisonnement-là et qui, au fond, partageaient tout avec les nazis. Hein. Ils étaient aussi socio-darwinistes, pro-patronat, antisémites, racistes, nationalistes qu'eux. Eh bien, ceux qui pensaient avoir fait une bonne affaire se retrouvent, encore une fois, soit morts, soit sous tutelle, 18 mois plus tard. Ça vaut aussi pour Hugenberg, que tu connais bien.
Ouais. Hugenberg, qu'on en parle,
qui lui a été, enfin, lui, c'est en 6 mois qu'il est dépouillé. C'est-à-dire qu'il est ministre dans le cabinet Hitler-Papen, le gouvernement de coalition droite-extrême droite de janvier 33. 6 mois plus tard, il n'est plus rien. Et mieux que ça, il doit céder à prix d'amis son empire aux nazis.
Oui, c'est le Bolloré de l'époque. On en a assez parlé. Et d'ailleurs, ce que j'ai appris en lisant Le Monde nazi aussi, c'était parce qu'on peut se demander les motivations de quelqu'un comme Hindenburg et tout ça. Et donc, c'est un gros propriétaire agraire. Et il avait peur de perdre ses terres. Et donc, c'est quand même de la petite corruption, quoi. Et c'est pour garder ses biens à lui qu'il se dit, bon, allez, on fout Hitler et puis... Non.
Alors, au niveau des élites patrimoniales allemandes, il y a des calculs sordides, hein, de vraiment fiscaux, sociaux, patrimoniaux. Et ce qui m'a interloqué, je le développe longuement dans Les Irresponsables, c'est que pour le coup, les intérêts patrimoniaux de la famille Hindenburg pèsent très lourd. Parce qu'ils ont le pouvoir, Hindenburg a beaucoup de pouvoir dans cette constitution qui est tordue par l'état d'exception depuis 1930, ça devient un régime présidentialiste, et parce que Hindenburg appartient à une caste qui est très importante à l'époque, qui est dominante dans une partie de la société allemande, qui est la caste des grands propriétaires terriens, des grands agrariens, des latifondières. Et eux ont des intérêts à faire valoir. On ne touche pas à leur propriété. Et donc, quand deux chanceliers successifs, chancelier Brüning au printemps 1932, puis le chancelier Schleicher en janvier 1933, veulent faire une réforme agraire, ce qui est plutôt très intelligent, on donne du travail aux gens, ils peuvent se nourrir en autoconsommation, et par ailleurs, il y a l'idée aussi, en lotissant des terres à l'Est, d'armer les marches de l'Est contre l'ennemi slave.
Qui veulent donner à manger au peuple, quoi.
Exactement. Eh bien, cette idée-là, elle est refusée avec horreur par les grands propriétaires terriens, et ça fait chuter Brüning au printemps 32, comme ça fait chuter Schleicher en janvier 33. Donc, vraiment, les calculs les plus sordides, un peu à la Bernard Arnault, en fait, je veux pas payer d'impôts, eh bien, sont déterminants dans le choix des...
Ce qu'il faut dire aux gens qui ont lu ou qui vont lire ces deux livres-là, c'est qu'en permanence, évidemment, on est habité parce qu'on vit aujourd'hui. Et d'ailleurs, faisons un aller-retour rapide et on reviendra au passé, mais on fait cet entretien au lendemain de ce qui vient de se passer en Allemagne, qui est quand même assez fou, c'est que pour le CDU, donc le parti de droite allemand, vient de rompre le cordon sanitaire et de faire un accord avec l'AFD, qui pense que Hitler est un communiste, pour citer ce qu'elle a dit, et c'est absolument glaçant et saisissant, quoi, parce que là, ça rigole plus, quoi.
Alors, c'est pas la première fois, j'en parle dans le l'Incipit des Irresponsables, puisque en 2020, il y a eu une majorité droite, extrême droite en Thuringe. Il faut se souvenir que l'Allemagne, à l'époque, comme aujourd'hui, est un État fédéré. Et donc, les élections dans les États fédérés sont très importantes, puisqu'il y a à chaque fois un parlement et un exécutif dans chacun des Länder. 18 à l'époque et 16 aujourd'hui. Et donc en 2020, il y a eu une majorité formelle, arithmétique, droite, libéraux et extrême droite, qui a décidé de s'allier et d'élire un libéral ministre-président de Thuringe. Alors ça durait 3 jours parce que c'était un scandale épouvantable, d'autant plus que, et là, l'aller-retour passé, présent et permanent, la Thuringe, qui vient également à nouveau en septembre de cette année de donner une très forte participation, un très fort résultat à l'extrême droite, à l'AFD, la Thuringe a été de fait, le premier Land, le premier État fédéré de la République de Weimar, à être gouverné par les nazis.
Oui, mais là c'est un Land, mais aujourd'hui, c'est au niveau du pays, quoi. C'est là où c'est inquiétant, quoi.
Oui, oui.
Surtout, en permanence, on a vu le salut nazi de Musk. C'est pour ça qu'il y a une électricité dans le livre. On se dit, c'est pas possible. Et c'est ce que je te disais en préambule, quoi, en disant, toi, quoi. Alors, évidemment, d'ailleurs, tu t'en expliques très bien dans l'épilogue de tout ça. C'est-à-dire que les critiques qu'on reçoit quand on fait le parallèle entre les années 30 et aujourd'hui, t'as toujours dit qu'il a arrêté. Je veux dire, on peut pas dire que Macron est un nazi ou que Bayrou ressemble à Van Papen. enfin, etc. Mais c'est pas le sujet, quoi. Non. Et tu l'expliques bien, quoi. Il y a, mais c'est cet engrenage, c'est saisissant, quoi. Enfin,
bah, moi, ce qui me frappe, c'est que les premiers qui sont prompts à inculper les historiens en disant qu'ils font des parallèles illégitimes, etc., d'abord ne voient pas que c'est pas les historiens qui font les parallèles ou les références au Troisième Reich, ce sont les acteurs sociaux eux-mêmes. Mmh. C'est Elon Musk qui fait un salut nazi, c'est pas un prof de fac dans un amphi à la Sorbonne. Voilà. Donc, déjà, c'est une première chose. Et ce sont ces mêmes gens qui contestent que l'on puisse réfléchir en historien et faire de l'histoire, c'est-à-dire resituer les phénomènes dans leur historicité, en montrant que le nazisme ne vient pas de rien, qu'il ne disparaît pas après 1945 et qu'il reste présent dans les têtes comme référence pour l'extrême droite. Le salut nazi de Musk était très bien compris et très bien reçu par l'extrême droite. Eh bien, ce sont ces mêmes personnes qui ensuite vont ergoter pendant des heures en essayant d'expliquer qu'un salut nazi n'est pas un salut nazi et que, au fond, on ne voit pas ce que l'on voit.
Alors, c'est une toute petite citation qui est page 139, là, que j'ai, c'est un journaliste dont j'ai oublié le nom, qui écrit à Adorno, le philosophe, et il dit, il plane au-dessus du pays comme une fatalité. On est en 1930, quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens plutôt à gauche, des journalistes, qui comprennent que ça va venir, quoi. Enfin, en 1930, hein, on est 9 ans avant l'avènement. Enfin, on est 3 ans avant l'arrivée d'Hitler, mais il y a quand même une lucidité. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas aveuglé par ce qui se passe, quoi.
Alors, effectivement, la dynamique de l'extrême droite à l'époque, elle est bien visible, comme elle est visible aujourd'hui. Mais là où je pense qu'il peut y avoir un message d'espoir dans ce livre-là, Le monde nazi, comme dans l'Asie responsable, c'est que rien n'est jamais écrit d'avance. Au fond, c'est l'extrême droite qui, a posteriori, nous dit, et les nazis ont été des maîtres dans cette matière, que... il y avait une marée brune, un phénomène quasiment géologique, en fait, hein, ou hydro-géologique, de montée des eaux qui était irrésistible. Or, Bertolt Brecht l'a bien montré, hein, une résistible ascension, on pouvait résister, et il y a des alternatives, on les détaille un petit peu dans Le monde nazi, j'y reviens longuement dans Les irresponsables, on peut faire l'histoire contrefactuelle de ce qui s'est passé en janvier 33. Tout ne menait pas à ce que quelqu'un qui a 44 ans à l'époque et qui vient d'être fraîchement naturalisé, qui s'appelle Adolf Hitler, s'assoit dans le fauteuil de chancelier. Ça, ce n'était pas écrit, ça a été une série, encore une fois, de calculs, de manigances, de manœuvres, sortes d'ides mesquins qui ont abouti à cette décision-là, mais une histoire contrefactuelle très, comment dire, très étayée, montre que l'hypothèse Schleicher, qui est chancelier en janvier 33, tenait très très bien la route, et que sa tactique qui consistait à faire exploser le parti nazi allait être couronné de succès.
Tu peux rappeler si Schleicher,
Alors Schleicher, c'est quelqu'un de très intéressant. Il est sur la photo que tu montrais tout à l'heure. C'est un général. Bon, c'est un général de bureau, hein. Il a fait une carrière... carrière d'état-major, c'est une sorte de Gamelin allemand. C'est un premier de la classe. Il est par ailleurs très brillant, très mondain, très intelligent. Il est obsédé par le renseignement. Il a mis sur écoute tout Berlin à partir de son poste qui est le poste du plus haut fonctionnaire du ministère de la guerre, quasiment le ministre de la guerre pendant toutes les années 20. Et c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, veut agréger le parti nazi et le mouvement nazi au camp national, ce qu'on appelle le camp national, hein, ou l'arc national, pour reprendre d'autres métaphores. Et il fait tout pour manœuvrer les nazis, pour qu'ils entrent au gouvernement. Sauf que les nazis sont des maximalistes, ils veulent la chancellerie, qu'il n'est pas question de leur donner. La chancellerie doit rester entre les mains de gens responsables, bien nés, des bourgeois, bien réticulés dans la finance, dans l'armée, dans l'industrie, et pas être donnée à un type qui sort d'un caniveau autrichien, qui a un accent du sud, à couteau.
Mais chancelier, c'est un peu comme être premier ministre.
C'est le chef du gouvernement, voilà, c'est le chef du gouvernement. Et Schleicher... et dans ce petit groupe qu'on appelle la Camarilla, c'est-à-dire le petit cabinet autour d'Innenbourg, le groupe de conseillers qui font la politique allemande à partir de 1930, régime présidentialiste, c'est le seul, à l'été 1932, à avoir vu que, un, les nazis ne sont pas des partenaires fiables, parce qu'ils promettent des choses qui ne tiennent jamais, donc on ne peut jamais leur faire confiance, et deuxièmement, ils ont un rapport à la violence qui est très problématique. Et Schleicher, qui avait l'idée d'agréger les nazis pour faire notamment entrer tous les SA dans l'armée allemande, et grossir l'air en armée allemande.
Section d'assaut.
Voilà. Lui, il change de perspective. À partir de l'été 32, il se dit non, mais ces gens-là sont dangereux. Et donc, il change de tactique. Et quand il succède à von Papen le 3 décembre 1932 comme chancelier, comme chef du gouvernement, il travaille pour le coup à faire exploser le parti nazi. Et c'est une tactique qui, dans une démarche contrefactuelle, aurait porté ses fruits au mois de février-mars 1933. C'est-à-dire que si on laisse Schleicher au gouvernement, eh bien, en quelques semaines, il n'y a plus de parti nazi qui est en train d'exploser.
Il se prend une balle quand, lui, en quelle année?
Alors lui, il sera assassiné, comme les autres, au moment de la nuit des longs couteaux. Mmh. C'est-à-dire ce règlement de compte interne qui vient détruire la généralité de la SA, l'aile sociale du parti nazi, ouais, qui veut une révolution sociale. Et ça, il n'en est pas question. Parce que les nazis sont de droite, d'extrême droite, donc on ne touche pas aux élites. Mmh. Et dans ce phénomène d'assassinats en série, on compte entre 150 et 200 morts en quelques jours, abattus par la police et par des...
C'est quand la nuit des longs couteaux?
C'est entre le 30 juin et le 3 juillet 1934.
D'accord. Voilà.
C'est un moment qui est très important parce que Hindenburg est en train de mourir, président du Reich est en train de mourir. Hitler a l'idée de cumuler les fonctions de chancelier et de président dans un office commun. Et pour cela, il a besoin du soutien de l'armée. Et la condition de l'armée, c'est que on élimine les trublions de la SA. On élimine l'aile sociale du NSDAP, qui n'est pas du tout une aile de gauche. Hein. Ça n'a aucun sens de parler de gauche du NSDAP. Ils sont anti-marxistes, radicaux, donc non. Mais par contre, ils ont une sensibilité sociale dont l'armée ne veut pas. Donc il faut les éliminer. Et dans ce contexte là, eh bien, la hiérarchie nazie en profite pour régler ses comptes avec des gens qu'elle n'aime pas, dont Schleicher, dont les conseillers de von Papen, etc.
Je voudrais... Il y a une citation, page 185, dans Le Monde nazi, tu poses la question, enfin vous posez la question de qui sont les nazis en 33. Et c'est intéressant parce que tu dis, enfin vous écrivez, ce sont pas des génocidaires. C'est-à-dire qu'en 33, il y a, voilà, ce sont des racistes, des antisémites, des nationalistes, des antidémocrates, des ennemis résolus de la gauche et des syndicats. L'égard des juifs, leur politique est résumée par le slogan Juden raus, donc les juifs dehors. C'est classique dans le vaste monde... Tu parles d'ethno-nationalistes antisémites depuis la seconde moitié du 19e siècle. Ce sont des hommes d'extrême droite qui prônent un pouvoir fort, la fin du parlementarisme et de la démocratie, la répression sans faille des éléments dits antinationaux, ainsi que la régénération résolue du corps allemand par la rééducation des égarés et par une biopolitique assumée. Donc ils sont pas génocidaires en 33 et ils vont le devenir comment?
Alors, ça nous tenait à cœur, Christian Grau, Nicolas Patin et moi, de faire l'histoire tout simplement et de nous replacer dans l'historicité des phénomènes. C'est-à-dire que les nazis de 1933 ne sont pas de ce 38, ni de 43, ni de 2025. En 1933, le parti nazi, c'est la raison sociale et c'est le nom de l'extrême droite allemande. Et ils sont définis par toutes les caractéristiques que tu énumérais. Mmh. Vis-à-vis des Juifs, ils ont un rapport, au fond, à une politique médiévale, qui est celle de l'expulsion. Et c'est pour ça que je cite ce slogan, hein, « Juden raus », les Juifs dehors. Il s'agit de pousser la population juive hors du biotope germanique, puisque les Juifs sont définis biologico-racialement comme un élément allogène qui n'a rien à faire sur ce biotope. Et... dans la suite du livre, et ça c'est des chapitres rédigés par Nicolas et par Christian, on explique comment il y a une dynamique de la politique anti-juive des nazis, qui pendant en gros 8 ans a été une politique, je le disais, de nature médiévale, hein. Il s'agit de faire partir les Juifs, de les expulser, par toute une série de normes juridiques, hein, plus de 400 décrets, qui rendent la vie juive littéralement impossible en Allemagne. C'est-à-dire que tu peux plus acheter ton lait de telle heure à telle heure, tu ne peux plus aller te baigner, tu peux plus avoir d'instrument de musique, avoir le titre de docteur, conduire d'automobile, avoir un chat, etc., etc. Donc, ça vise à étouffer la vie juive en Allemagne et à faire partir. Avec un coup de pression supplémentaire, un coup de violence, qui est le fameux pogrom de la nuit dite de cristal, le 9 novembre 1938, qui se situe à un moment où les nazis ont tellement de succès internationalement que leur politique antisémite devient un échec. Ils ont réussi à faire partir 200 000 juifs allemands, mais en annexant l'Autriche et les Sudètes, ils récupèrent plus de juifs. Et donc là, il y a une volonté de mettre une intimidation physique supplémentaire sur les Juifs par un pogrom monstrueux à l'échelle du Reich et par, pour la première fois, l'incarcération de 30 000 Juifs dans des camps de concentration. Il n'y avait pas de Juifs dans les camps de concentration.
C'était en quelle année, ça ?
1938. Il n'y avait pas de Juifs dans les camps de concentration auparavant. À titre de Juifs, parfois, il y en avait parce qu'ils étaient sociodémocrates, communistes ou syndicalistes. Mais là, on a une incarcération massive de 30 000 personnes, avec d'ailleurs plusieurs milliers de morts, pour dire aux Juifs allemands, maintenant, il faut vraiment partir. Et l'achèvement de ce processus-là, c'est la bascule de l'été 1941, au moment de l'invasion de l'URSS par les troupes nazies, puisque là, on a mis en place d'une logique de massacre qui, en quelques semaines, devient une logique génocidaire. Puisqu'on ne se contente plus de massacrer les hommes en état de porter les armes et donc de menacer l'armée allemande, on passe, avec un franchissement de seuil à la fois qualitatif et quantitatif, au massacre également des personnes âgées, des femmes et des enfants. Et ça donne lieu à ces orgies de violence incroyables dont Christian parle, hein, Kamenets-Podolsk, fin août 1941, à la frontière entre Ukraine et Hongrie, on a 18 000 personnes qui sont tuées en deux jours par des unités mobiles de l'ASS et de la police allemande.
Des photos qui sont saisissantes.
Appuyées d'ailleurs par des auxiliaires locaux.
Alors comment tu reçois, toi, quand tu vois l'échange entre je ne sais plus son nom, la présidente de l'AFD et Elon Musk, où on dit qu'Hitler était communiste, et cette espèce de, c'est même plus de la négation, du négationnisme, ça va au-delà. Comment tu l'interprètes et comment, parce que, je veux dire, les données du livre sont objectives. Je veux dire, même les Allemands sont au courant de tout ça, quoi. Même si quel est ce délire, là ?
Alors, après 1945, il y a des macules pénibles à vivre pour plein de gens en Europe. Les patronats qui ont collaboré un peu partout en Europe, les droites, les extrêmes droites. Et donc, il y a eu cette tentation de, évidemment, de déformer, de réécrire l'histoire et de dire que, puisqu'on a un nom qui est national-socialiste, ça veut bien dire que les nazis étaient de gauche, puisqu'il y a socialiste dedans. Alors ça, on explique, évidemment, dans le livre, puisque c'est une question qui revient souvent. Et ça circule beaucoup, hein, sur les réseaux sociaux de droite et d'extrême droite. Nous, ce que l'on rappelle, c'est que, à la fin de la Première Guerre mondiale, tu as une myriade de petits mouvements, et le parti nazi en est un, d'extrême droite, ultranationaliste, antisémite, raciste, qui met dans son nom des marqueurs, comment dire aujourd'hui, de la gauche. Et les nazis le redoublent puisqu'ils s'intitulent Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands. Donc, il y a deux référents de droite, national et allemand, et tu as deux référents de gauche, travailleurs et socialistes. Et le but de ces marqueurs-là, sémantiques, c'est de servir de leurre, c'est-à-dire d'attrape-nigaud, si tu veux, pour détourner un électorat qui serait tenté par la solution internationaliste, pour le détourner vers la solution nationaliste. En l'occurrence, la solution internationaliste, elle est immédiate, hein, c'est la révolution bolchevique de 1917. On est en 18-19, là, donc c'est vraiment hier, hein, c'est vraiment la veille. Et la tentation de gauche est forte en Allemagne. Il y a un mouvement conseilliste soviétique qui s'est développé à l'automne 1918. Il y a une panique des élites patrimoniales qui lâchent beaucoup de choses à ce moment-là. Hein. Les familles régnantes s'en vont, tous les ducs de Hesse, de Thuringe, etc. s'en vont, le Kaiser s'en va, le patronat cède tout ce que l'on veut en signant les accords du 15 novembre 1918 qui accordent hausse de salaire, représentativité syndicale, limitation du temps de travail, etc., toutes choses que les nazis vont réformer à partir de 1933, bien sûr. Mais les élites lâchent tout à ce moment-là. Et pour capter cette clientèle électorale, ces élites financent, et le parti nazi en fait partie, hein, est financé par des marchands de pianos, par des concessionnaires automobiles, par des fortunes bavaroises, hein, puisque c'est un petit parti du Sud, finance des mouvements qui servent, encore une fois, de leurre et d'attrape-nigaud, puisque tu as ces marqueurs sémantiques, et dans le programme, tu as des petites mesures comme ça, qui consistent à taxer les profiteurs de guerre, rétablir la justice sociale, etc. Toutes choses qui seront très vite oubliées, parce que en dépit de ces marqueurs sémantique, le parti nazi, très clairement, dès le début des années 20, se positionne à droite. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement social, les nazis sont contre. Dès qu'il y a une grève des cheminots en Bavière en 1921, très importante, les nazis la combattent. Enfin, on sert les intérêts de ceux qui te financent. En
fait. Mais quel est le calcul pour dire qu'il est communiste, par exemple, ou pour
Ben, c'est purement sémantique. Et puis ça repose également sur des idées fausses, hein, que les nazis auraient nationalisé l'industrie à partir de 1933. Hein, c'est ce qu'on dit Alice Weidel et Elon Musk. C'est faux. C'est archi faux. L'entreprise privée est encouragée, une politique de l'offre de droite est pratiquée abondamment, mais encore une fois, ça permet de brouiller les pistes et de nier l'histoire. J'ajoute que outre le petit duo entre Alice Weidel et Musk, les références au nazisme dans le parti AfD sont permanentes en ce moment. Hein.
Ben oui, c'est ça qui est saisissant.
Permanente.
Quoi,
mais... Il y a cette image où on a deux parents qui miment un toit pour leurs enfants en tendant le bras. Il y a le slogan actuel de l'AfD qui est « Alice für Deutschland », Alice Weidel, donc, qui reprend, c'est un jeu de mots sur « Alles für Deutschland », qui est la devise de l'ASA, qui veut dire « Tout pour l'Allemagne », qui est un slogan interdit en Allemagne. Donc, il y a des jeux rhétoriques, symboliques permanents pour envoyer des signes à l'électorat le plus radical.
Après, revenir en arrière, mais le signe passe quand même.
Absolument.
Quoi.
Bon, c'est l'histoire du salut nazi de Musk qui, manifestement, ne voulait qu'envoyer des bisous aux gens humains à partir de son cœur.
Avant de parler des irresponsables, le livre donc est passionnant donc, sur toute la montée du nazisme et après, c'est l'effondrement, quoi. Et là, au sortir du cauchemar nazi, gisait l'Europe des abîmes, quoi. C'est une phrase de toi,
enfin de Christian. De, ça, c'est Christian.
Non, mais c'est vraiment parce qu'on oublie ça. On oublie à quel point, l'Europe des abîmes, quoi. Chacun, même si l'Allemagne a perdu la guerre, il y a une sorte d'effondrement mental, moral. Enfin, il y a un état d'esprit très très particulier à ce moment-là en Europe.
Alors, justement, ce que tu évoques, c'est ce qu'on a essayé de distinguer dans le livre, c'est-à-dire ce qui ressortissait au patrimoine commun européen, et on le travaille beaucoup, hein, en rappelant que le nazisme, c'est de l'antisémitisme, du racisme, du capitalisme, du nationalisme, etc. Bref, des choses que ni les nazis ni les Allemands n'ont inventées, mais qui sont habilement mises en musique et mises en cohérence dans les années 20. Et ensuite, au-delà de ce texte-là, qui est un texte commun à tout l'Occident, Occident colonial, capitaliste et impérialiste, tu as un contexte allemand qui est spécifique, qui est celui de traumatismes successifs et qui s'aggravent les uns les autres, depuis 1871 au moins, sinon depuis la guerre de 30 ans, sinon depuis la réforme d'ailleurs, on peut en discuter. Et ce contexte-là se radicalise évidemment avec l'entrée en guerre. L'entrée en guerre de l'Allemagne, ce sont 18 millions d'hommes allemands sous l'uniforme. 18 millions d'hommes allemands dans les trois armes, plus dans la Waffen-SS. Ce sont des centaines de milliers d'hommes qui sont impliqués directement dans des massacres, voire des massacres génocidaires. C'est également une société allemande qui bénéficie de la guerre. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a insisté. Christian rappelle que ce qu'on appelle la dictature nazie est une dictature de la participation. On reprend ce terme, Beteiligungsdiktatur, qui est un terme de nos collègues allemands, qui montre que les nazis ne s'imposent pas de manière transcendante et comment dire extérieure à une société allemande qu'ils vont dominer par la violence, pas du tout. Il y a la violence, mais elle n'est pas si grande que ça. Elle devient rabique à partir de 43, mais pas avant. Les Allemands ont participé au phénomène nazi, d'abord à la production économique, puis ensuite à la conquête et à la colonisation de l'Europe, parce que ils ont touché des dividendes qui étaient à la fois symboliques. Vous êtes de la race supérieure, la race élue, etc. Et des dividendes matériels. Et matériels. Ça commence dès 33, et c'est un historien extraordinaire qui s'appelle Frank Bayer qui montre très bien cela, qui a montré que le régime nazi peut être interprété comme un gigantesque pacte de corruption permanent. Mmh. On achète les Allemands en permanence. Quand une famille juive disparaît dans ton immeuble, c'est regrettable et ça peut te faire de la peine parce que ce sont des amis à toi, mais le lendemain, tu as un vide-grenier au pied de l'immeuble où tu peux racheter tout ce qu'il y a dans l'appartement. Voilà. Et ça permet quand même de faire passer la pilule, voire de susciter un enthousiasme pour la politique de déportation. Donc ça, c'est la spoliation interne, mais il y a également la prédation externe à l'échelle généralisée, à l'échelle du continent européen, qui va jusqu'à, encore une fois, des préoccupations sordides, hein, pas très loin d'ici, dans le centre de Paris, dans les magasins Lévitant, qui ont été arianisés. Tu as un camp de concentration avec des Häftlinge, des prisonniers qui trient mettent en boîte et envoient en colis vers le Reich tout ce qui a été saisi dans les appartements de aryanisés de Paris, jusqu'aux ampoules.
Il y a un autre passage qui dans la partie sur l'effondrement qui moi m'a passionné. Je voudrais lire ça avant de passer à la suite. J'espère qu'on n'est pas trop long pour les gens, mais c'est tellement passionnant et je te reçois pas suffisamment, mais bon. C'est que savaient les Allemands de la Shoah, quoi. Alors vous écrivez, la terminologie ici est souvent inadaptée dans la mesure où même au plus haut de l'appareil d'État national-socialiste, très peu avaient une réelle vision d'ensemble de la solution finale, de la totalité des réalités qu'elle recouvrait. Et les termes que nous utilisons aujourd'hui, Shoah, Holocauste, ont une cohérence qui ne peut être atteinte que par une connaissance a posteriori, sans même parler du terme de génocide inventé par un juriste polonais en 1943, etc. C'est quoi l'idée? Ça veut dire que tu crois réellement comment la connaissance de la Shoah est arrivée au peuple allemand, aux oreilles des Allemands, etc.
Alors ça, c'est un historien allemand qui s'appelle Peter Langerich qui a travaillé sur la question dans un livre qui s'appelle « Nous ne savions pas », qui est évidemment ironique, et qui a été l'auto-justification favorite des Allemands après la guerre. Hein. « Davon haben wir nichts gewusst », on ne savait pas. Bon. De fait, on savait. En Allemagne, on savait, tout simplement parce que les actes de violence génocidaire sont tellement massifs et tellement étendus qu'une connaissance de tout cela transpire dans la société allemande via, tout simplement, la correspondance des soldats. Les opérations génocidaires sont confiées à des unités spéciales de la police et de la SS. Mais ces unités spéciales sont parfois tout simplement des unités de police de réserve qui sont des citoyens lambda qui ont été versés dans la réserve de la police et envoyés en Pologne pour massacrer, par exemple. Et ces gens-là écrivent à leur famille, envoient des photos et la censure postale ne peut évidemment pas tout stopper. Donc ces connaissances-là transpirent. Et puis pour ce qui est des centres de mise à mort, donc là on parlait des opérations mobiles de tuerie dont la population allemande est au courant. Pour ce qui est des centres de mise à mort, de fait, certains se trouvent, enfin, c'est même leur définition, se trouvent dans des lieux de centralité ferroviaire ou routière, qui fait qu'il y a du passage et il y a quelque chose qui, là aussi, transpire au-delà des limites des camps. Et donc, oui, il y a une connaissance de tout cela. Alors, Langerich montre bien à partir de sources qui sont les sources des RG, en fait, de l'époque, hein, le SD de la SS, qui montrent que des rumeurs circulent. Qui viennent transformer, réinterpréter des éléments de connaissance. On parle de trains entiers qui sont envoyés dans des grottes ou enfermés hermétiquement, où on balance du gaz, etc. Enfin bref, il y a plein de recodages, de réinterprétations presque oniriques au fond, hein, qui montrent qu'il y a une connaissance du fait que le sort de ceux qu'on envoie à l'Est et des Juifs qui sont présents à l'Est n'est pas enviable.
Il y a un passage, j'ai lu ça dans ces pages, qui est saisissant, c'est quand un général, ou je sais pas quel était son grade, arrive dans un village et qui doivent tuer des Juifs et des enfants juifs, donc avec des armes, etc., pour convaincre ses troupes. D'abord, il demande à ceux qui ne veulent pas y aller d'avancer, et puis ensuite, les autres, ils psychologiquement, ils leur expliquent que s'ils ne tuent pas ces enfants, ce sont parce que eux-mêmes, leurs familles, leurs machins sont massacrés en Allemagne et qu'il y a une sorte de réciprocité de la mort, quoi, qui est...
Alors, ça fait partie de la constitution de tout ce système normatif qui est à la fois juridique et moral, qui est celui d'une hyper-morale nazie, hein, un système de normes qui justifie la violence de masse, la violence extrême et la mort infligée à autrui. Moi, j'ai travaillé là-dessus de mon HDR, ça a donné un livre qui s'appelle « La loi du sang », où je montre comment s'est constitué tout un système de justification de la mort infligée à un enfant, par exemple. Un petit juif que l'on va tuer est un juif avant d'être un petit. C'est-à-dire que petit juif deviendra grand et dès lors va venir se venger ou va, par définition, même sans se venger, venir dévaster l'Occident. Ça, c'est quelque chose qui est à la fois théorisé et expliqué au niveau macro et au niveau des instances qui diffusent ce message-là. Les discours d'Himmler, les discours de Robert Ley, d'Hitler, etc. L'enseignement idéologique dans les unités de tuerie. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve à la base chez les exécuteurs. Christian cite notamment la correspondance de Walter Mattner, qui est un jeune officier de police autrichien. Il a petite vingtaine, 22 ans, je crois. Il est papa de deux petites filles qu'il a dû quitter et laisser en Autriche. Il leur écrit, il écrit à son épouse tous les jours, et il raconte ce qu'il fait. Il raconte le caractère absolument traumatisant des exécutions au bord des fosses. Vous imaginez l'été en Lituanie en 1941, le caractère traumatisant de ces exécutions de masse qui se soldent parfois par des jeux. Hein. Quand il reste les enfants, eh bien, on s'amuse à faire du baltrap. Voilà, on balance les enfants et puis on fait du tir au pigeon. Et il raconte ça. Évidemment, pour comment dire, extérioriser son traumatisme, ce n'est pas évident, pour se convaincre également lui-même que ce qu'il fait est bien, il raconte de manière très acribique ce que cela implique, le sang qui gicle, la matière cérébrale qui éclabousse les uniformes, etc. Et il dit, voilà, on tue des enfants, ça peut paraître surprenant, mais je les tue pour qu'ils ne viennent pas tuer mes filles. Et ça, c'est un jeune officier de police qui a été versé dans les SS, qui écrit ça à 22 ans, à son épouse, en pensant à ses gamines, quoi.
Eh oui. Il y a des images qui me viennent, mais... comment dire, je voudrais, pour finir avec le monde nazi, lire la dernière phrase du livre et pour inciter les gens à s'y plonger. Et vous écrivez ce livre, vous l'aurez compris, procède du tout autre que celle d'un récit creux et d'une rhétorique vide, celle d'un plus jamais ça, qui n'entrevoit pas le début du commencement d'une réflexion sérieuse et honnête, s'obstinant avec une opiniâtreté qui force l'admiration à refuser toute intellection de ce qui a rendu le nazisme possible. Mais cette intuition et cette inquiétude que, sur le fondement de ce que source en main et historiographie en visée, nous pensons avoir appris et compris du nazisme. Nous espérons l'avoir partagé donc avec le lecteur que je suis. Et en ce sens, c'est une réussite. C'est vrai que le bouquin fait peur parce que c'est un pavé, quoi. Mais je veux dire, il est... Des gens qui ont des doutes devraient lire...
En fait, c'est un livre très réduit, puisque bon, il fait 640 pages, mais vu le caractère absolument océanique de la bibliographie sur le nazisme, oui. C'est vraiment une synthèse à l'os, hein, qu'on a essayé de beaucoup problématiser, et également de resituer dans l'historiographie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose, on parle également de la manière dont on a écrit l'histoire de ce phénomène au cours des
différents... Comment vous avez travaillé tous les trois?
On s'est mis à trois, puisque on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de synthèse sur le nazisme, en fait. Depuis une quinzaine d'années, plus personne s'y colle puisque c'est trop massif et puis il n'y a que des coups à prendre parce qu'on oublie forcément toujours quelque chose. Et donc là, ce sont trois amis qui ont décidé de faire ça, qui ont tous les trois des sensibilités et des cultures historiographiques différentes. Christian Ingao, c'est un anthropologue de la violence de guerre et la violence génocidaire. Nicolas Patin, c'est un historien du social, qui en ce moment fait de la sociographie électorale du NSDAP. Moi, je suis un historien des savoirs, des univers mentaux, des ce qu'on appelle les idéologies. Et à nous trois, on arrivait à couvrir des bibliographies complémentaires et différentes, et à épouser des angles de vue et des sensibilités différentes. Et c'est pour ça que, sur le fondement de ces spécialités-là, on s'est réparti les différents chapitres qu'on a écrits chacun dans notre coin, en se relisant, en se corrigeant, en se critiquant les uns les autres, pour aboutir à ce qui, à nos yeux, est une synthèse assez unique pour le coup,
oui.
Bien faite, on y a mis du cœur et du sérieux, et par ailleurs, encore une fois, toujours resitué dans la dynamique et dans l'historicité de l'écriture de l'histoire.
Et du temps, ça vous a pris combien entre le moment où vous y avez pensé et le moment où ça sort?
Oh, bah, le projet, il remonte avec Judith Simoni, notre éditrice, il remonte à 2016, je crois. Donc,
oui, ah oui.
8-9 ans.
Oui. C'est du taf, quoi.
Ah oui, c'est du travail. Ouais.
Alors ça aussi, c'est du texte. Je voudrais lire le plus simple, c'est que je lise non pas la préface, mais enfin le texte qui présente le livre et pour montrer son acuité et son télescopage avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment en France et plus généralement en Europe et plus généralement dans le monde. Un consortium libéral autoritaire tissé de solidarité d'affaires, de partis conservateurs, nationalistes et libéraux, de médias réactionnaires et d'élites traditionnelles, perd tout soutien populaire. Au fil des élections, il passe de presque 50% à moins de 10% des voix et se demande comment garder le pouvoir sans majorité, sans parlement, voire sans démocratie. Cet extrême centre se pense destiné à gouverner par nature. Sa politique, Sa politique est la meilleure et portera bientôt ses fruits. Quand les forces de répression avertissent qu'elles ne pourront faire face à un soulèvement généralisé, le pouvoir, qui ne repose sur aucune base électorale, décide de faire alliance avec l'extrême droite, avec laquelle il partage au fond à peu près tout, et de l'installer au sommet. Cette histoire se déroule en Allemagne. J'ai cru que t'allais dire cette histoire se déroule en France en 1925. Tu dis cette histoire se déroule en Allemagne entre mars 1930 et janvier 1933. Elle repose sur une lecture des archives politiques, des journaux intimes, des correspondances, discours, articles de presse et mémoires des acteurs et témoins majeurs. Elle révèle non pas la progression irrésistible de la marée brune, mais une stratégie pour capter son énergie au profit d'un libéralisme autoritaire imbu de lui-même, dilettante et in fine parfaitement irresponsable. Si t'enlèves la phrase sur l'Allemagne, tu la mets sur la France ou l'Europe, on est bon, quoi. Non?
Oui, alors, c'est un livre d'histoire qui relie ce qu'on a essayé de faire dans les premiers chapitres du monde nazi, cette période entre 1930 et 1933 où, clairement, on a des élites aux abois. Puisqu'il y a une crise économique et sociale qui s'approfondit, ces élites n'arrivent pas à y répondre parce que la politique austéritaire, donc déflationniste, comme on disait à l'époque, est un échec, c'est même une catastrophe. Et elles perdent de plus en plus de soutien électoral. La droite est plutôt en bonne position hein, dans la deuxième partie de la République de Weimar, la deuxième moitié des années 20. Mais là, l'électorat fond véritablement comme neige au soleil. Et au fil des réflexions, alors d'abord, il y a une première inflexion qui est de gouverner sans le Parlement. Là, effectivement, les échos sont assez stridents, hein, puisque, de fait, l'article qui est invoqué, c'est l'article 48 alinéa 2 de la Constitution de Weimar, qui a inspiré l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1948, et l'article 16. J'insiste à la fin de ce livre, hein, dans l'épilogue, sur le fait que, travaux des constitutionnalistes l'ont bien montré, la Constitution de 1958 a été directement inspirée de la Constitution de Weimar, telle qu'elle a été tordue par Hindenburg et la Camarilla, à partir de 1930, dans un sens donc présidentialiste et autoritaire. Eh bien, ces gens-là qui veulent se maintenir au pouvoir font le pari, in fine, le calcul que la meilleure manière de rester au pouvoir sans coup d'État, sans guerre civile, parce que de fait, tu l'as rappelé, l'armée dit non. En novembre 1932, il y a une simulation qui est faite hein, par les services de l'armée. Est-ce que l'armée peut tenir le pays en cas de coup d'État ? La conclusion est négative, l'armée ne veut pas. 100 000 hommes, c'est trop peu. Et dès lors, le calcul qui est fait, c'est d'agréger les nazis au consortium libéral autoritaire.
Alors, j'aimerais que tu expliques, là, tu mets en exergue du livre une citation du ministre des Finances du Reich qui s'appelle, alors il a un nom à rallonge, hein, Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk.
Oui.
Ça va?
Oui, c'est ça.
Alors, il dit, Papen me pria de bien vouloir exposer à nouveau ma vision des choses. Je répétais donc que l'on devait laisser à droite la porte ouverte aux nazis. Pourquoi elle est importante, cette citation? Juste avant, tu cites Goebbels qui dit « Papen a parlé à la radio, un discours qui vient de nos propres idées, de A à Z ».
Alors, Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk, c'est quelqu'un d'intéressant parce que c'est un haut fonctionnaire. C'est un juriste, un haut fonctionnaire du budget qui est chargé de la question des réparations et de la question de l'équilibre budgétaire. Et il est nommé ministre des Finances du Reich le 4 juin 1932 dans le premier gouvernement Papen qui est surnommé le gouvernement des barons parce que il y a beaucoup de nobles et beaucoup d'inconnus issus d'élites qui ne correspondent en rien à la sociologie électorale du pays. Bon, un gouvernement totalement hors sol. Et c'est quelqu'un qui fait partie de cette haute fonction publique qui réfléchit froidement, posément aux manières de rester au pouvoir. Et lui, il va le rester longtemps parce qu'il est nommé ministre le 4 juin 32 dans le gouvernement Papen 1. Il restera dans le gouvernement Papen II, il reste dans le gouvernement Schleicher, il est ensuite ministre des Finances du gouvernement Hitler-Papen, et il reste pendant la totalité du Troisième Reich.
Il ne se prend pas de balle, lui, non?
Non, ce monsieur qui fait partie d'élite très bien intégrée, bien éduquée, très polie, c'est un aristocrate, qui a fait les meilleures études, cet homme-là, il reste pendant 12 ans à la tête des Finances du Reich, qu'en 1945, et le plus beau, c'est que il est le dernier chancelier du Reich. C'est-à-dire qu'après le suicide d'Hitler, on a un intermède Goebbels, qui dure quelques heures, puisque Goebbels se suicide. Mmh. Et ensuite, on a une bipartition des fonctions. Le président du Reich devient l'amiral Dönitz, et le nouveau chancelier devient le comte Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk. Mmh. Donc c'est cet homme-là qui est tout à fait comment dire, représentatif des élites traditionnelles, patrimoniales, très polies, très posées, qui est le dernier chancelier du Troisième Reich.
Dis-moi, si l'actualité française n'avait pas été celle qu'elle est, avec le 49-3, avec la dissolution, avec les petites magouilles entre l'extrême droite et l'extrême centre, etc., est-ce que tu l'aurais écrit, ce livre? Est-ce que tu l'aurais écrit de la même manière? Dans quelle mesure la situation qu'on vit t'a influencé ou t'a porté?
Alors, moi, très clairement, je ne me cache pas du fait que je suis très préoccupé par ce qu'il se passe en France depuis 2017. Le tournant libéral-autoritaire, il est là. Libéral-économique, bien entendu, avec la politique de l'offre, et autoritaire, avec un mépris pour la démocratie tant qu'elle ne consacre pas ce qu'il faut. En relisant l'histoire du XXe siècle, on se rend compte que les extrêmes droites ont toujours été mises au pouvoir par des libéraux. C'est le cas en 1922 en Italie. C'est le cas par les libéraux autoritaires en 1932-1933 en Allemagne. Et je me disais qu'il allait avoir une pente de l'extrême-centre, comme dit Pierre Cerna, vers l'extrême-droite, mais je la voyais à échéance 2027. Or là, avec le vote de la loi immigration en décembre 23, j'étais surpris de la pente et de la vitesse à laquelle tout cela était dévalé. Et comme, de mon côté, je parlais beaucoup de cette période à mes étudiants, je parlais de 1932, de Papen, mais sur le fondement de mes souvenirs, de ma culture propre, j'ai voulu reprendre le dossier. Donc j'ai relu ou lu toute l'historiographie que je ne maîtrisais pas, je me suis plongé dans les sources, enfin, j'ai fait que ça pendant un long moment. Et j'ai trouvé, en réalité, beaucoup plus de parallèles que ce que je croyais. Mais tout simplement en faisant de l'histoire. Alors, c'est une histoire qui est effectivement dictée par mes préoccupations de citoyen, d'individu, de papa, de je ne sais quoi, de prof. Mais il faut rappeler que pour quiconque, pour mes amis historiens du néolithique, de la Grèce ou de Rome, toute histoire est contemporaine. C'est-à-dire que par définition, puisque c'est moi ici et maintenant qui adresse au passé des questions du présent, c'est véritablement le présent qui se saisit du passé et qui lui adresse des questions qui intéressent le présent. On ne faisait pas d'histoire du genre et d'histoire des femmes il y a 60 ans. Mmh. On ne faisait pas l'histoire de l'environnement il y a 40 ans.
Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a une phrase au début, d'ailleurs tu parles de Michael Fossel, tu dis dans le contexte d'étiolement, voire de dissolution démocratique que nous connaissons en Europe et dans l'extrême Occident Sud et Nord-Américain, il nous a semblé opportun de rouvrir le dossier majeur de ce suicide d'une république qui ressemble fort, à vrai dire, à un assassinat en règle, moins pour alerter sur un retour des années 30 que pour penser et prévenir ce que Fossel appelle une récidive. Mmh.
Alors, pour voir des échos aussi, et dans l'épilogue, je développe longuement la question de la comparaison en histoire, en en fondant la légitimité d'un point de vue historiographique, épistémologique, et en rappelant que on raisonne par analogie. C'est-à-dire que les classes sociales, les intérêts, les lobbies qui sont actifs pour mettre les nazis au pouvoir, mmh, sont analogues à ceux qui travaillent aujourd'hui, les élites contemporaines, avec des préoccupations, là aussi analogues. Payer le moins d'impôts possible, obtenir le plus de subventions de l'État, avoir un régime fiscal et juridique patrimonial favorable, éviter que la gauche arrive au pouvoir, ça c'est constant évidemment, faire en sorte que la droite se perpétue au pouvoir le plus longtemps possible, y compris en violant de temps en temps un ou deux articles de la Constitution, parce qu'il le faut bien, sinon c'est la gauche qui arrive. Bref, ces préoccupations que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui de manière ouverte, eh bien, étaient celles des élites allemandes, enfin des élites patrimoniales allemandes, qui ne sont pas du tout des élites intellectuelles, hein, de l'époque. Et forcément, ça, comment dire, le fait de travailler ou de se faire les dents, si tu veux, sur le terrain historique, permet d'aiguiser le regard et de mieux identifier ce qui est à l'œuvre aujourd'hui.
Il y a des tas de passages dans le livre où tu parles de l'Allemagne de ces années-là, mais si on oublie que ça traite de ça, ça parle de la France, quoi. Je te cite la page 35. Tu dis, c'est de fait une petite oligarchie désinvolte, égoïste et bornée qui a fait le choix, le calcul et le pari de l'assassinat d'une démocratie. Des libéraux autoritaires qui, convaincus de leur légitimité supra-électorale, persuadés du bien fondé de leur politique de réforme, réformes. Le mot réforme est omniprésent, dis-tu, en 1932. Infatués de leur génie, de leur naissance et de leur réseau, ont froidement décidé par la seule voie rationnelle et raisonnable pour se maintenir au pouvoir et éviter toute victoire de la gauche, que c'était une alliance donc avec les nazis. Quand tu écris ça, moi je pense à Macron, à colère, à tous ces gens qui nous ont violentés à coup de 49-3, à coup de loi sur l'immigration, etc.
À coup de LBD, hein, de répression policière. Mais c'est certain, mais de fait, je parle de Von Papen, je parle de Camarilla, je parle de ces gens-là, mais comment dire, il y a d'une part le raisonnement analogique, qui est légitime en histoire, parce que toute histoire est comparative, hein, encore une fois, simple fait de parler à partir du présent sur le passé, induit une comparaison, fut-elle tacite. Mais au-delà de l'analogie, de la comparaison, il y a aussi le fait que, on le disait, nos institutions sont directement dérivées des institutions qui prévalent et de la pratique des institutions qui prévaut en Allemagne à partir de 1930 par un médiateur qui est le professeur René Capitan, qui est un jeune professeur de droit public à Strasbourg, qui parle allemand, qui lit l'allemand et qui en 1932 fait un article sur le rôle politique du président du Reich en faisant l'apologie d'Hindenburg et de cette Camarilla et en disant que pour résoudre les problèmes qui se posent au parlementarisme français, eh bien, il faut transposer le régime de la République présidentialiste de Weimar en France. Et c'est précisément ce qui s'est passé en 1958. Donc, les institutions produisent aussi des cultures politiques et produisent des hommes. C'est pour ça que je fais un long chapitre sur la présidentialisation du régime et le règne des entourages, en montrant que le fait de concentrer la décision dans les mains forcément faillibles d'un vieillard qui s'appelle Paul von Hindenburg produit un phénomène de concentration dans quelques mains qui sont ses conseillers, lesquels conseillers sont parvenus dans son entourage par une logique un peu darwinienne inversée. Parce que dans un système de cour, un système courtisan, ce ne sont pas les plus intelligents, les plus libres et les plus les plus critiques qui vont être promus. Ce sont les plus serviles, les plus ancillaires, les plus bêtes et qui, in fine, forment le dernier carré. Et c'est vrai que quand on voit la bande de crétins qui entoure Hindenburg en 1932, on ne peut pas ne pas penser au fait que la dissolution est une idée de génie qui a été ruminée entre Madame Brigitte, Bruno Roger Petit et je ne sais pas quel autre ectoplasme. Oui. Donc forcément, aux mêmes causes, les mêmes effets. C'est-à-dire qu'on a un régime présidentiel qui est un régime monarchiste, courtisan, qui promeut les serviles et les imbéciles. Et ça produit des catastrophes.
Ouais, et c'est ce qui est glaçant dans le livre. Alors le livre est il est moins épais que l'autre. Hein, il fait combien? 300 pages.
305 pages.
Ouais, 305 pages. Et en fait, il y a, je crois, une douzaine de chapitres. Et c'est un peu une galerie de portraits, quoi, de tous ces irresponsables. Donc ça va de Hindenburg à Von Papen, en passant par Schleicher, les gens qu'on a cités. Mais tu parles aussi de la manière. Et là, on pense à nous aussi. Bon, le patronat a décidé à un moment, le jour où d'ailleurs Bernard Arnault a fait la déclaration qu'il a faite, c'est saisissant, quoi, parce qu'on voit que le patronat, à un moment donné, décide de soutenir Hitler.
C'est une vieille thèse marxiste, hein, dès les années 30, qui était celle du Comintern, hein, que, au fond, le fascisme et le nazisme sont la dernière solution qui s'offre à un capitalisme aux abois. Le capitalisme est en échec à cause de la grande crise, la crise du libéralisme. Donc, pour maintenir des taux de profit et une domination, il faut la violence fasciste. Bon, alors, on a un peu nuancé les choses depuis, mais de fait, il faut constater que, dès la fin des années 20, le petit patronat allemand épouse le nazisme, comme les classes moyennes. Il faut rappeler que le vote nazi n'a jamais été un vote ouvrier, n'a jamais été un vote de chômeur, au contraire. Mais ce sont les petites classes moyennes qui ont peur du déclassement, et c'est également le patronat de ces PMI-PME qui sont si importantes en Allemagne. C'est vraiment le socle géologique de l'économie allemande, ce qu'on appelle le Mittelbau en Allemagne, la petite industrie mécanique typiquement, qui embrasse le nazisme. Et le grand patronat, comme la Haute Banque, fait le choix du nazisme progressivement. Alors, il y a des personnages qui se rallient de manière spectaculaire. Il y a le Marschart, hein, le héros et le génie de la monnaie, dès le début des années 30. Il y a également Fritz Thyssen qui se rallie. Et pour le reste, le patronat industriel et bancaire ventile ses dons financiers à toute la droite, au NSDAP, parti nazi, mais aussi au DNVP, autre parti d'extrême droite qui a à peu près le même discours que les nazis, qui est le parti d'Hugenberg, mais aussi d'autres partis de droite. Et au fond, la bascule se fait à l'automne 1932. Avec un choix désormais explicite, hein, on a une pétition de patrons allemands au président Hindenburg pour nommer enfin Hitler chancelier, et c'est quelque chose qui se confirme dans les semaines qui suivent. Les banques aussi soutiennent, hein, les nazis, ne serait-ce qu'en accordant des crédits massifs. Hein. Quand une banque accorde un crédit, c'est que elle accorde
des banques allemandes ou des banques étrangères aussi.
Alors allemandes essentiellement. Sachant que c'est tout le capitalisme international qui va bénéficier des nazis, hein, parce qu'à partir de 33, on a un gigantesque plan de relance pour l'armement qui fait marcher tous les fondamentaux de l'économie allemande, hein, le caoutchouc, l'acier, le charbon, l'électricité, la chimie, etc., pour fabriquer des armes. Et ça, tout le monde en bénéficie.
Alors, mon préféré, moi, c'est quand même ce vieil Alfred. Donc, je voudrais qu'on parle de lui, parce que c'est ce qui nous unit, d'ailleurs, un petit peu, puisque c'est pas chez toi que j'ai découvert ce monsieur, c'est en cherchant. Parce que, naïvement, je me disais, mais est-ce qu'il y a un Bolloré de l'époque, quoi? Et c'est comme ça que je suis allé sur Google, j'ai regardé, j'ai posé des questions à droite, à gauche, et je suis tombé sur lui, Alfred Hugenberg, et c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. Je vais te lire, c'est le chapitre 3, donc c'est, faut dire que le livre est composé, tu traites des différents milieux, comment certains milieux ont amené Hitler au pouvoir, quoi. Et donc les médias, évidemment, et d'ailleurs, si on fait une hiérarchie, c'est peut-être ma lecture de l'histoire, mais c'est les premiers responsables à mes yeux. Je te cite pour que les gens comprennent qui est Alfred Hugenberg, et on va voir sa photo. Ils se ressemblent tous d'ailleurs avec leurs moustaches et tout ça. Et c'est un chapitre qui s'appelle Le mania des médias et l'union des droites. Et tu c'est les premières lignes, hein, pour reprendre l'expression si pertinente de son biographe, Alfred Hugenberg est bel et bien le Führer oublié de l'Allemagne des années 28-33. Par son activité médiatique, il a patiemment, obstinément, transformé l'espace et le débat public allemand en incubateur des idées d'extrême droite tout au long des années 20. Entrepreneur idéologique, idéologue lui-même, un temps seigneur de l'industrie lourde, des groupes, je crois qu'il était, puis mania des médias, il est le précurseur de figures plus contemporaines, telles Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi ou Vincent Bolloré. Ces grands patrons de presse et de télévision qui ont mis leur fortune au service d'une ambition politique et d'un projet antidémocratique. Mmh. Berlusconi a fait de la politique, Bolloré n'en a pas fait, mais c'est vrai que le rapprochement est saisissant, y compris dans l'utilisation de sociétés de production de cinéma, d'humour pour faire passer des choses, etc. Et ce type, c'est quand même celui qui fait la courte échelle à Hitler.
Oui. C'est lui qui nazifie l'espace public cognitif allemand, en fait, à la fin des années 20, puisque il possède en propre une vingtaine de magazines et de journaux. Il possède les deux plus grandes compagnies de cinéma également, de films de fiction et d'actualité cinématographique, l'UFA d'un côté, la Deutlich de l'autre. Et par ailleurs, il a créé un système très, très malin, hein, d'abonnement, qui permet de livrer à 1600 journaux des éditos tout prêts, des rubriques déjà pré-rédigées qui partent en camion ou en train la nuit de Berlin vers les journaux locaux. 1600 journaux qui vont ensuite imposer les cadrages, les thèmes, les mots, les obsessions de l'extrême droite allemande. Il a véritablement nazifié.
Il est antisémite.
Alors, Hugenberg, c'est quelqu'un de très intéressant parce que il surclasse, hein, ses avatars contemporains. C'est quelqu'un qui a une très bonne formation universitaire. Il est docteur en économie. Il a fait une thèse de 600 pages, hein, sur la colonisation allemande à l'Est. Il est obsédé par la question de la submersion slave. Il veut une colonisation dans la Baltique et en Pologne. Il a travaillé comme haut fonctionnaire de la colonisation également. Et ensuite, il est rentré dans le privé. Et là, il a compris pendant la Première Guerre mondiale qu'il fallait changer les œufs de panier, hein, et passer de l'industrie lourde aux médias. Et que c'était ça qui était important. Et à partir de là, il a créé ce système capitalistique d'abonnement qui permet non seulement de, c'est tout bénéfice, hein, parce que non seulement de diffuser le message de l'extrême droite, mais aussi de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et alors, c'est quelqu'un qui trouve sa consécration le 30 janvier 33, puisqu'il devient super ministre de l'économie, agriculture, alimentation. Sauf que, En quelques mois, en moins de 6 mois, il est digéré, recraché, vomi par les nazis, et il ne lui reste plus rien. Il n'est plus ministre et il a dû céder son empire.
Ah oui, c'est un destin très particulier. Ouais. Et lié à ça, il y a une citation qui fait 10 lignes, mais je voudrais, parce qu'on l'a, en la lisant, c'est une citation de von Papen avant l'arrivée d'Hitler. Mais moi, ça m'a fait penser à des politiques français de droite, hein. J'ai pensé à Ciotti, à Wauquiez, ou évidemment à Zemmour, pour ne pas citer les autres. Et alors, il dit la chose suivante. « Je n'hésite pas à dire haut et fort que c'est le devoir moral de tout gouvernement de distinguer clairement les ennemis de l'État entre ceux qui détruisent notre culture et ceux qui se battent pour le bien commun de notre peuple. C'est parce que l'on n'a pas su se décider dans les cercles politiques qui comptent à abandonner ce signe égal que, en matière politique et morale, on trace entre les communistes et les nazis, que l'on a créé ce front républicain artificiel qui a enrôlé les forces communistes hostiles à l'État dans un front commun contre le mouvement montant du parti nazi. Le gouvernement du Reich ne se reconnaît dans aucun parti, mais il reconnaît le devoir moral de constater que recruter de tels éléments de gauche pour le combat politique met gravement en danger les fondations de l'État. » Elle est incroyable, cette citation, parce que tu la reprends et c'est France Insoumise qui se fait traiter d'antisémite, c'est tout ce que les médias de gauche se prennent dans la gueule par tous ces
sachant que ce sont les mêmes qui parlent d'antisémitisme dans la France Insoumise qui vont vous dire que Musk ne fait pas de salut nazi, hein. C'est les mêmes.
Ouais.
Hein.
C'est le printemps républicain, oui, enfin, oui. Voilà. Mais ça, c'est un chat, un chat, et un pro-nazi, quoi.
Oui, oui, et ce que tu cites, c'est un discours du 20 juillet 1932. C'est la rhétorique des extrêmes, en fait. Il y a 2 extrêmes, ils parlent d'ennemis de l'État, mais il y en a qui sont plus extrêmes que d'autres. Il y a ceux qui défendent les valeurs, la famille, la patrie, et qui sont nos amis parce qu'on peut s'entendre, on peut partager des choses, et il y a ceux qui sont irréconciliables, et évidemment, c'est la gauche.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que on est trop long déjà. Je vais me faire engueuler parce que j'avais dit que je te parlais 1 heure, mais on va approcher 1h30. C'est l'épilogue, elle est passionnante, ton épilogue, parce que tu expliques c'est le rapport avec aujourd'hui, quoi. Et là aussi, tu retrouves des citations de ce médecin qui s'appelle Arnold Brecht.
Alors, il est pas médecin, je mets toujours docteur, mais à l'allemande, hein, parce qu'il est docteur en droit.
Il est fonctionnaire. Ouais. J'ai envie de la lire, sa citation, parce qu'elle est aussi très parlante. « Imaginer affaiblir les nazis par un coup de barre à droite n'était en soi ni stupide ni inconscient. D'une certaine manière, c'est aussi ce qu'avait voulu Brüning. » Alors Brüning, c'est celui qui était avant von Papen.
30 à 32, oui.
« Mais tolérer les nazis contre l'engagement qu'ils toléraient, le cabinet Papen, cesser toute attaque contre eux et en même temps multiplier les attaques frontales contre la gauche seule, non seulement contre les communistes, mais aussi contre les sociodémocrates, balayer de manière téméraire tous les scrupules constitutionnel quand ils contrecarraient leur plan. Voilà ce que Papen et Schleicher tenaient pour la bonne méthode contre Hitler. Mais si l'on ne rejette pas par principe la politique de Papen et Schleicher, même si on ne la disqualifie pas comme folle ou inconséquente, on cesse de formuler un jugement aussi bienveillant quand on considère la manière dont elle a été appliquée et quand on s'aperçoit qu'elle a eu pour conséquence précisément ce qu'elle était censée prévenir, le pouvoir total des nazis. »
Oui, alors cette citation-là, elle est en écho avec les exergues que tu citais tout à l'heure au début du livre, quand Goebbels dit « J'ai écouté Papen à la radio, c'est notre discours de A à Z », quand il dit également « On commence à avoir peur au sein du parti nazi parce que Papen en fait tellement qu'on se demande ce qu'il nous restera à faire nous, parce qu'il faut notre politique déjà ». Et donc on voit comment des gens qui ont pensé alors agréger, se rallier ou dépasser les nazis en reprenant leur langage et en faisant leur politique, ont en fait nazifié eux-mêmes l'Allemagne, à commencer par le tournant autoritaire de 1930, où on abandonne le parlementarisme au profit du présidentialisme. Donc il y a des effets de cliquet comme cela, qui sont, on va dire, institutionnels, en termes de pratique de la Constitution, qui sont sémantiques, qui sont politiques, avec des états d'urgence à répétition, que l'on suspend ensuite, mais dont il reste toujours un peu quelque chose, un contrôle accru sur la presse, sur la liberté d'expression, etc. Et tout ça, évidemment, pave le chemin de gens qui, encore une fois, dès l'été 1932, disent « Non mais oh, arrêtez, il faut qu'il nous reste quelque chose à faire. »
Et alors, un moment, tu mets les pieds dans le plat, dans l'épilogue toujours, et je voudrais encore te citer, puis après on conclura. Tu dis « Gutenberg n'est pas Bolloré et Papen n'est pas Macron, mais leur position dans les configurations politiques, économiques et sociales de la France de 1925 et l'Allemagne de 1932 sont analogues. » Tu ajoutes « Pas d'égalité ou d'identité terme à terme, A n'est pas C, mais une identité de rapport. » Là, c'est une petite équation, mais qu'on peut aisément comprendre. A slash B égale C slash D. Autrement dit, dans la configuration B, le terme A est bien l'équivalent fonctionnel du terme C. Et là, tu cites Pascal Horry, etc. Et qui écrit « Donc, la vérité, ce n'est pas de refuser de voir l'évidence qui crève les yeux, qu'il y a des constances, c'est des récurrences dans l'histoire de notre espèce. Parlons clair, celui qui écrit ces lignes a toujours placé au-dessus de sa propre œuvre d'historien, la fameuse formule d'Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Tu peux expliquer
alors,
ça?
Ça, c'est Pascal Horry, hein, qui est cité. Et c'est la préface qu'il a rédigée au début des années 90 à une réédition d'un livre qui s'appelle Les Oligarques, qui a été rédigé par Jules Isaac. Jules Isaac, tu sais, c'est le co-auteur des fameux manuels Malé-Isaac. Il était juif et il s'est réfugié au Chambon-sur-Lignon pendant la guerre et il a fait un travail qui est une histoire de la fin de la République athénienne, au moment de la victoire finale de Sparte, la tyrannie des Trente et la domination des oligarques qui détruisent la démocratie à Athènes. Alors évidemment, les oligarques s'installent contre la démocratie à la faveur d'une défaite contre Sparte. Donc le parallèle avec la fin de la Troisième République sous les coups de boutoir de l'armée allemande et l'installation de Vichy est très clair et il ne s'en cache pas. Et Pascal Horry fait une préface pour expliquer cette démarche et montrer que lorsque l'on est historien, non seulement on fait de l'histoire contemporaine, parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on adresse les questions du présent au passé, on fait de la comparaison en respirant, en dormant, en lisant, en écrivant, forcément, et par ailleurs, on raisonne toujours, et ça apparaît de manière très claire dans la démarche de Jules Isaac en 1942, on raisonne toujours par analogie. Il ne s'agit pas de dire que telle faction pro-spartiate et antidémocratique à Athènes, c'est l'Action française, mais il s'agit de dire que dans la configuration, encore une fois, sociale, politique, économique d'une certaine période, tel acteur social, tel groupe est l'équivalent fonctionnel de tel autre dans une autre configuration. Et c'est d'autant plus frappant lorsqu'on quitte la comparaison antiquité époque contemporaine et lorsqu'on a une comparaison plus proche entre les années 30 et nous dans des systèmes sociaux assez comparables, qui sont gouvernés par ailleurs par, encore une fois, des constitutions et des institutions qui sont directement inspirées de l'époque en question. Et c'est pour ça que la comparaison de fait s'impose. Et j'insiste, le livre est un livre d'histoire, et j'ai fait l'histoire de cette installation par calcul des nazis au pouvoir, et j'ai montré qui a agi et pourquoi. Et comme, évidemment, les parallèles sont éclatants et que ça se lit quasiment comme un roman à clé, alors que c'est de l'histoire, eh bien, je fais un épilogue pour prévenir, tu sais, le pontosan habituel, les crétins qui parlent du point Godwin, etc., juste pour rappeler ce que c'est que de faire l'histoire, ce que c'est que la démarche comparative, la démarche analogique, et pour fonder la légitimité, au fond, effectivement, d'un rapprochement que le lecteur fait nécessairement. J'y insiste, hein, c'est moins l'historien qui fait le rapprochement que l'acteur social lui-même ou le lecteur. Encore une fois, c'est pas un historien qui va faire un salut nazi. C'est pas, un historien qui va faire des références constantes dans son action politique au Troisième Reich. Ce sont les acteurs sociaux. Ça a un sens, et dès lors, eh bien, en tant qu'historien, je m'en saisis pour voir ce que cela veut dire.
Mmh. Non, mais d'ailleurs, après avoir passé ces jours avec toi, là, ces lectures, je me demande s'il y a encore du travail pour toi, l'historien du nazisme. Bah, là, c'est quand même une somme, c'est quand même un bouquin qui est très, c'est très écrit. En plus, c'est très bien écrit, quoi. C'est pas chiant du tout. T'es habité par une autre idée, par un autre.
Oui, et bon, mais des choses qui sont dictées également par des préoccupations contemporaines. Je me demande, je m'intéresse à la manière dont les contemporains de 1933 ont vécu, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont perçu, qu'est-ce qu'ils ont compris, de quoi ont-ils pris conscience au moment où les deuxième et troisième lignes du parti nazi, c'est-à-dire des jeunes hauts fonctionnaires, des jeunes universitaires, très travailleurs, très ambitieux, étaient en train de subvertir et de changer l'Allemagne et de détruire l'État de droit. Donc je m'interroge là-dessus en ce moment, et je m'interroge aussi, là le Monde Diplôme m'a demandé un article, et je leur fais quelque chose sur la manière dont tous ces irresponsables, ces dilettantes, hein, le terme apparaît souvent dans les sources, hein, Papen est un dilettante, c'est un crétin, infatué, etc. Là aussi, c'est, effectivement, on pense à des contemporains. Eh bien, la manière...
À qui tu penses?
Bah, des gens qui sont pas très malins, qui se croient très intelligents, qui parlent tout le temps, et qui sont comparés au SS-117 en permanence, voilà, on sait de quoi on parle. Mais la manière dont ces irresponsables, donc, ont été eux-mêmes victimes de la monstruosité qu'ils ont déclenchée. Parce que, encore une fois, si du point de vue arithmétique, tu peux imaginer que c'est une bonne affaire de faire alliance avec les nazis, parce que 25% plus 26, ça fait 51, et c'est bien. Tu déclenches, en fait, un phénomène qui t'échappe complètement, comme une réaction nucléaire, en fait. Parce que le rapport de l'extrême droite à la violence, il n'est pas celui des libéraux autoritaires qui sont prompts à faire donner la police contre les gueux, bien sûr. Mais ils n'imaginent pas qu'ils seront victimes un jour. Et c'est ça aussi l'irresponsabilité de ceux qui parient sur l'extrême droite, c'est qu'ils se disent « Moi, je suis blanc, je suis riche, j'appartiens aux élites, je suis protégé par tout ça. Je subirai jamais les conséquences de mes malversations. » Sauf que, encore une fois, 18 mois plus tard, muselière ou balle dans la tête.
Qui est irresponsable aujourd'hui? Est-ce que tu dirais que François Bayrou est irresponsable, par exemple?
Le fait de reprendre les termes, on sort d'une semaine où on a beaucoup parlé de submersion migratoire, qui a été saluée, encore une fois, par Marine Le Pen comme une victoire idéologique, une victoire gramscienne, n'est vraiment pas une bonne idée. C'est totalement irresponsable. Je reviens dans ce livre, je recite à nouveau Goebbels, hein, qui dit « Mais Hitler, Papen parle comme nous de A à Z ». Accrédité par l'usage politique des notions qui viennent des bas-fonds, des caniveaux de l'extrême droite, c'est très dangereux. De la même manière que réprimer violemment des mouvements sociaux, faire des états d'urgence à répétition, promouvoir le droit d'exception sur le droit commun, c'est irresponsable. Et ça vient de la part de gens qui croient ne jamais devoir subir les conséquences de ce qu'ils font.
Bernard Arnault, par exemple, tu penses qu'il est irresponsable par les propos qu'il a tenus récemment?
Là, lui, la visée est moins politique que purement patrimoniale. Il incarne un capitalisme qui a été gavé par le néolibéralisme, à qui on a donné des subventions publiques sans conditionnalité, qui ont transformé d'ailleurs l'État et le système d'impôts en vaste système de prédation au bénéfice des actionnaires, et qui n'en ont jamais assez. Donc il incarne l'insatiabilité, de manière là aussi très très bien élevée, très bourgeoise, beaucoup plus distinguée qu'un Trump ou un Musk, qui sont des brutes en fait, hein, mal élevés. Mais il exprime au fond la même chose que Trump lorsqu'il dit qu'il va attaquer le Groenland pour aller forer et revenir au bon vieil impérialisme, qui cherchent des gisements de croissance là où il n'y en a plus.
Alors un dernier nom, évidemment, Emmanuel Macron. Son irresponsabilité.
Bon, déjà, elle est constitutionnelle, hein, article 67 de la Constitution. Ensuite, on a affaire à quelqu'un qui a été élu en 2017 sur la promesse de dépassement. Beaucoup y ont cru, bon. Sur la promesse également que jamais les thématiques de l'extrême droite ne triompheraient. On se souvient d'un voyage à Oradour-sur-Glane, on se souvient d'une visite au Mémorial de la Shoah, on se souvient de propos tempérés, centristes sur l'immigration, pour ensuite parler de rabzouz et je ne sais pas quoi, comme le Monde l'a révélé, pour ensuite parler d'immigrationnisme, pour ensuite accréditer au fond toutes les thèses de l'extrême droite en donnant des entretiens à Valeurs Actuelles.
Ça fait de lui un irresponsable.
Ça fait de lui un irresponsable, et qu'on nous a vendu, qui a été vendu sur fond de papier glacé, hein, pendant longtemps, comme une espèce de génie ou de Mozart, qui est en fait très très largement incompétent d'un point de vue géopolitique, politique et économique, c'est une catastrophe.
Donc, si vous voulez lutter contre les Hugenberg de l'époque, il faut vous abonner à Blast pour qu'on puisse continuer à faire ces entretiens. Et surtout, moi, je suis très impatient de voir, il faut qu'on invente une série qui soit à la hauteur de qui est la qualité de ce livre. Il faut que les publics plus jeunes puissent avoir accès à ça. Et ça va être passionnant, quoi. Donc, merci beaucoup, Johan, de cet entretien, de ce livre, de ce travail avec tes complices, là. Et puis, bienvenue à Blast, et j'espère qu'on va bien travailler ensemble.
J'ajoute un petit mot, peut-être, c'est que on parlait de Radio Londres tout à l'heure, je disais à mes amis que j'allais parler sur Radio Londres. Je pense que Blast fait beaucoup de bien à beaucoup de monde, parce qu'on a un véritable travail journalistique qui est fait, d'enquête, d'investigation, d'analyse critique de la société, toutes choses que d'autres médias sur d'autres supports ne font pas. Et je pense qu'on est très redevable, ainsi qu'à toute l'équipe de Blast, de nous offrir autant d'intelligence.
Non, merci, je t'ai pas payé pour dire ça.
Non, c'est vrai, en plus.
Je vais te payer un verre. Merci beaucoup, Johan, et à bientôt pour faire ces vidéos. Au revoir à tous.
Au revoir.
Merci.